Vous écoutez France Culture.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette marche des sciences consacrée aujourd'hui à l'histoire du couple homme-loup. Mal-aimée, créature du diable, disait-on autrefois, bête qui poussait à la haine et pouvait tromper les âmes, le loup fut souvent décrit comme une incarnation du mal, allant jusqu'à produire les fantasmes les plus effrayants, comme avec la figure de l'homme-loup ou bien celle du loup-garou. Attraction ou répulsion, des sentiments opposés ont toujours rythmé cette relation de l'homme avec le loup, tout en établissant une différence entre le loup de la nature, de celui qui hante le monde de l'imaginaire et alimente les innombrables légendes à travers les âges. Pourquoi une telle fascination et rivalité avec notre espèce humaine? Comment expliquer que cet animal fut aussi mal connu et mal perçu au fil des siècles, y compris dans le monde des savants? Et n'a-t-on jamais tenté de le domestiquer, de s'en approcher au point de revoir nos jugements sur l'animal? Mais un homme en a fait l'expérience il y a plus de 35 ans, un éthologue et écologue, ancien directeur de recherche au CNRS, spécialiste international des oiseaux et des mammifères et qui, du jour au lendemain, a accepté d'élever un bébé loup dans son appartement. Avec le double regard de l'homme et le regard du scientifique, il vient de raconter son histoire rare et pleine d'enseignements, car comme il le dit lui-même, c'est une étrange mais honnête alliance qui a associé une enfant louve à un scientifique entraîné à la rigueur et à la neutralité, à un avocat qui a fini par prendre le parti de l'accusé. Kamala, une louve dans ma famille, c'est le titre du livre paru chez Flammarion, signé Pierre Jouventin, que nous accueillons aujourd'hui sur France Culture, avec à ses côtés pour entrer dans cette histoire du couple homme-loup, le biologiste Yves Christen, auteur notamment du livre Les surdoués du monde animal, paru aux éditions Du Rocher, et puis plus récemment, De l'animal est-il une personne, ouvrage édité également chez Flammarion, et comme souvent, l'émission de la Marche des sciences sera émaillée d'archives sonores de l'INA. Et puis en seconde partie d'émission vers 14h48, place à la rubrique Livre Jeunesse avec en studio Catherine Donnet et Céline Duchesnay. Toutes les deux vous ont réservé leur choix de livres animaliers tout juste sortis dans les librairies. Mais sans plus attendre, l'histoire du couple homme-loup. Bonjour Pierre Jouventin.
Bonjour.
Vous êtes donc, je l'ai dit au début de cette émission, éthologue et écologue. Vous avez vécu une aventure hors du commun, on peut le dire, avec une louve, avec la tentative peut-être d'avoir toujours trois niveaux de récit que l'on va essayer de restituer aujourd'hui dans l'émission, c'est-à-dire le niveau de la famille, le niveau de l'éthologue, écologue et puis le citoyen moraliste également. Alors dites-nous tout d'abord, c'est quoi l'éthologie ?
Alors l'éthologie, c'est la science du comportement, c'est-à-dire donc l'étude scientifique du comportement sur le terrain généralement, mais ça peut être en captivité, mais c'est toujours par rapport au terrain qu'on peut comprendre. Et de toute manière, ce que je fais, moi, c'est pas étudier l'éthologie en laboratoire, c'est toujours l'affaire dans le milieu, et c'est pour ça que je suis à la fois éthologue, écologue, à différencier de l'écologie politique, et puis je tiens compte aussi de l'évolution, c'est-à-dire de l'adaptation d'un animal à son milieu.
Et donc jusqu'à cette aventure avec cette louve dont on va parler aujourd'hui, vous étiez plutôt spécialiste donc des oiseaux spécifiquement ?
Non, aussi des mammifères, mais par contre, absolument dans la nature, ce qui est tout à fait, c'était tout à fait anormal pour moi de prendre un animal et de l'élever chez moi, surtout dans un appartement, mais en réalité, je n'ai pas fait du tout exprès.
On va y venir très vite. Bonjour Yves Christen.
Bonjour.
Vous êtes biologiste, spécialiste de la maladie d'Alzheimer, mais un des meilleurs spécialistes de la relation homme-animal.
Oui, je crois que c'est un sujet passionnant et que si on s'intéresse à la cognition et aux mécanismes psychiques dans l'espèce humaine, on ne peut pas faire l'économie de cette espèce de miroir qu'est le comportement animal et le psychisme animal. Et on se rend compte, le psychisme animal, ça n'a pas de sens de dire ça d'ailleurs, les psychismes des animaux. Et on se rend compte que, bien entendu, le fossé n'est pas ce que l'on croyait, que d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de fossé entre l'espèce humaine et d'autres espèces animales.
Et ce que je trouve intéressant, votre livre est passionnant, hein, le livre intitulé « L'animal est-il une personne ?» Et dans ce livre, au tout début, vous nous dites que vous avez rencontré des gens incroyables, des prix Nobel dans votre parcours humain et de professionnel. Bon, par exemple, Watson et Crick, hein, les découvreurs de la double hélice de l'ADN, c'est pas rien. Et en même temps, vous expliquez très simplement que ce sont les animaux, les rencontres avec les animaux qui ont peut-être le plus modifié votre vision de la vie.
C'est exact. Je veux dire que vous savez, quand on fait de la science, je pense que Pierre a eu une expérience similaire, très souvent, on confirme, on conforte les hypothèses que l'on avait déjà. On fonctionne comme ça dans la vie citoyenne de manière générale aussi. Et puis, de temps à autre, il se passe un truc intéressant qui est qu'on voit quelque chose que l'on n'avait pas vu auparavant et qui change votre rapport au monde.
Et qui change la grille de lecture du
monde. Qui change la grille de lecture. Et je dois dire d'ailleurs que Pierre Jouventin est exemplaire à cet égard parce que plusieurs des rencontres qu'il a été amené à faire, indépendamment du loup, nous ramène à ce problème-là. Je pense à cette histoire que j'ai trouvée très intéressante dans un livre paru il y a pas mal de temps, où tu évoques tes démêlés avec un chimpanzé qui t'avait mordu. Et à ce moment-là, Pierre avait fait quelque chose qui est plutôt une faute professionnelle, d'ailleurs comme le fait d'avoir un loup dans son domicile, dans un appartement. Pour se venger de ce chimpanzé, il avait utilisé un serpent mort qu'il avait mis pour faire peur au chimpanzé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ensuite que le vétérinaire est venu engueuler Pierre en lui disant « Pourquoi tu as fait ça? Tu n'aurais pas dû professionnellement faire une chose pareille. »
Mais comment l'avait-il su?
Simplement parce que le chimpanzé avait pris par la main le vétérinaire pour lui montrer le forfait. Comme le vétérinaire avait lui-même auparavant utilisé le serpent pour faire peur à Pierre Jouventin, il avait compris qui était le coupable. Donc on a là l'exemple d'un personnage chimpanzé qui est capable de dire d'une certaine manière quelque chose à un humain. Et on a aussi autre chose, qui est le fait que deux animaux d'espèces différentes, un humain et un chimpanzé, sont capables émotionnellement d'interagir comme s'ils étaient dans la même bulle, dans le même monde. Et c'est la même chose que l'histoire de la louve avec le même Pierre Jouventin. C'est le fait que deux êtres d'espèces différentes ont quelque chose à dire. Vous voyez, c'est pas pareil quand vous écrasez un moustique, vous n'avez pas de colère à l'égard du moustique. Il vous gêne, vous le tuez, il est pénible, etc. Tandis que là, il y a deux mondes qui se rencontrent, et ça, je trouve que c'est passionnant.
Alors Pierre Jouventin, dites-nous comment, donc en 1975, c'est ça, vous êtes retrouvé, amené à élever un bébé loup, une petite louve dans votre appartement. C'était à Montpellier.
Oui, c'était à Montpellier, c'était tout à fait par accident. Disons que je servais de conseiller scientifique au zoo de Montpellier. Et puis, paradoxalement, les amis des loups avaient fait une campagne contre l'élevage, la mise en captivité des loups. Et donc, les jeunes qui venaient de naître étaient condamnés, puisque le directeur ne pouvait pas arriver à les vendre. Et donc, il savait que ma femme était une fanatique des loups et qu'elle rêvait, elle rêvait d'élever un loup. Moi, je savais que c'était possible, mais enfin, je ne pensais jamais pouvoir le faire. Et donc, il m'a proposé...
C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore de législation qui interdisait
oui,
ça.
Absolument. Mmh. Actuellement, c'est pour ça d'ailleurs que je me suis permis d'écrire ce livre maintenant, parce que là, je ne donne plus le mauvais exemple, alors qu'à l'époque, c'était possible. Et donc, j'ai pris cette louve pour faire plaisir à ma femme. Et puis, j'habitais au deuxième étage, en plein centre-ville. Et je pensais que c'était pour quelques semaines ou quelques mois. Or, les travaux qui étaient en cours, d'une maison avec un enclos, ont mis 5 ans. Donc, vous voyez ce que ça peut être. Donc, on a été, tout à fait par accident, les premiers au monde, et peut-être les derniers, à élever une louve dans un appartement.
En sachant qu'un loup grossit assez vite, quand même. Donc, cette louve, vous l'avez recueillie, elle avait quelques jours.
Ah ben, de toute manière, pour que ça se passe bien, oui. Il ne faut pas qu'elle ait ouvert les yeux. Il faut qu'elle ouvre les yeux dans l'autre monde, le monde humain. Et là, elle considère qu'elle est un humain, qu'elle est dans la famille.
Donc, le monde de sa nouvelle meute, quelque part.
Voilà. En réalité, elle est adoptée.
Et alors, pourquoi Kamala?
Alors, Kamala, simplement parce que Disons, maintenant, c'est discuté cette histoire. Hein. Maintenant, on s'aperçoit que c'était plus, probablement une escroquerie. Mais à l'époque, en tout cas, c'était ce qui me faisait rêver parce qu'un révérend père Singh avait trouvé deux Kamala et Amala, deux petites indiennes, dans une tanière de loup. Il les avait récupérées, il les avait réapprivoisées, ouais, disons, à la vie humaine. Mais par contre, ça avait été un échec. Et surtout, semble-t-il, maintenant on a des preuves que c'était plutôt une escroquerie.
Alors avant de partir sur la description peut-être physique de Kamala, je voudrais vous faire entendre un premier document sonore. C'est une archive extraite des fonds de l'INA, un extrait d'une émission sur France Inter. C'était le 4 février 1963 et c'est l'interview du directeur du zoo de Vincennes à l'époque. C'était juste après la mort d'un loup tué en Haute-Marne. La question étant de savoir est-ce que c'était vraiment un loup ou un chien.
Eh bien, on peut discerner un loup d'un chien, mais les races de bergers de la région rhénane, qu'il s'appelle berger d'Alsace ou berger allemand, ont été obtenues par croisement du chien et du loup, en prenant des chiens qui avaient déjà une morphologie voisine de celle du loup. C'est bien que les caractères anatomiques que l'on recherche habituellement, les caractères du poil, certains caractères du squelette, certains caractères du profil facial, du port de la queue, sont devenus tellement voisins dans l'une et l'autre de ces deux espèces, du loup sauvage et du chien-loup de belle forme, qu'il est souvent difficile, même sur la table du laboratoire en présence d'un cadavre, de poser un diagnostic certain.
Donc ce n'est pas sérieux lorsque des paysans de la Haute-Marne disent « si, si, ce sont des loups, nous avons bien reconnu cela à leurs traces, à leurs empreintes ».
Il est absolument impossible de distinguer l'empreinte d'un chien-loup de l'empreinte d'un loup. Là, vous aurez l'unanimité de tous les gens qui fréquentent les forêts, les terrains et qui relèvent des empreintes.
Mais pourquoi il ne peut pas avoir de loup en France ?
Eh bien, et parce que le loup étant un animal dangereux à la période où il a peu de nourriture, depuis longtemps, dans le temps de Louis XIV, il y avait déjà des lieutenants de louveterie, et depuis longtemps, on a cherché à le détruire.
Alors, votre opinion, Pierre Jouventin, et puis ensuite Yves Christen, est-ce qu'on peut être aussi catégorique aujourd'hui ? On en connaît un peu plus quand même sur les caractéristiques du loup.
Je crois que c'est un peu dur. Hein, c'est-à-dire
qu'en 63, là.
Oui, voilà, actuellement, d'abord, on ne savait quasiment rien du loup à cette époque, très peu. Enfin, on commençait à savoir sur le loup. Maintenant, on en sait plus. On sait qu'en réalité, un chien est bien plus dangereux pour les moutons, par exemple, qu'un loup. Donc, ce n'est pas aussi simple. Un loup a toujours très, très peur de l'homme. Donc, en réalité, ce n'est pas évident. Et actuellement, justement, il va y avoir un problème de la peur du loup, parce que le retour du loup va créer le problème.
Où on en est aujourd'hui ? Il y a combien de loups référencés la nature en France ?
Vous savez, on n'arrive pas à les compter, bien sûr. Mais enfin, on les évalue à environ 200. Mais ça va très vite, c'est-à-dire qu'un loup, ça peut faire 200 km dans la nuit, donc vous pensez bien que, de toute manière, ils sont venus par eux-mêmes, personne ne les a introduits, ils arrivent de l'Italie, et de toute manière, ils vont se développer, parce que c'est pareil en Espagne, c'est pareil en Italie, c'est pareil en Allemagne, il n'y a pas de raison que ça soit différent en France.
Donc situé plus spécifiquement dans le Massif central, les Pyrénées-Orientales, la Lozère,
oui, il faut quand même peut-être dire au passage que les loups, par exemple en Italie, et en Espagne, qui sont plus nombreux qu'en France et depuis plus longtemps, ne posent pas de problèmes particuliers, n'est-ce pas ? Les loups peuvent venir le soir dans les villages, ils fouillent un peu dans les poubelles, c'est pas idéal, mais enfin, ça ne fait pas de psychodrame. Hein. Je crois que la dangerosité du loup a été, ça me paraît à peu près acquis, extrêmement exagérée dans nos pays, sans aucun doute. La dangerosité vis-à-vis de l'homme, bien entendu.
Oui, hein. Contre, ce qui va...
Pas vis-à-vis des troupeaux.
Ce qui va se poser, par contre, c'est un problème économique. C'est-à-dire que les bergers, qui ont déjà beaucoup de mal à joindre les deux bouts, vont être obligés de garder encore plus leurs troupeaux, de mettre des patous, c'est-à-dire des chiens spéciaux pour garder contre les loups. Et donc, c'est plus compliqué.
Ça, on va y revenir en progressant dans l'émission, mais c'est vrai que quand on regarde l'histoire longue du loup, de nos connaissances, est-ce qu'on peut dire que beaucoup de scientifiques, finalement, de savants, se sont trompés sur lui ? Je reprends un extrait que vous proposez dans vos livres. Pierre Jouventin, je crois que c'est vous, ou Yves Christen, vous me direz, c'est dans l'histoire naturelle de Buffon. Buffon a écrit sur le loup qu'il était donc désagréable en tout, la mine basse, la aspects sauvages, la voix effrayante, l'odeur insupportable, le naturel pervers, les mœurs féroces. Il est odieux, nuisible de son vivant, inutile après sa mort. Et donc, on comprend au fil de vos pages que beaucoup de savants comme Darwin, Conrad Lorenz, se sont trompés aussi en disant que le chien, par exemple, est le croisement du loup et du chacal, ce qui n'est plus vrai. Descartes aussi ne portait pas forcément dans son cœur le loup, en tout cas avait une idée assez négative.
Ben, Descartes, il n'avait pas seulement une idée négative du loup, il avait une idée négative de l'animal.
De l'animal en général.
Il savait même pas ce qu'était un animal. Il considérait qu'un animal, ça ne sent pas, ça ne pense pas. Ça paraît incroyable maintenant.
Oui, Yves Christen.
Oui, pour Descartes, il n'y a pas de doute que c'est une catastrophe. Alors pour Buffon, Buffon aussi, pour beaucoup d'animaux, n'est-ce pas, Buffon, il est allé avec son style personnel et un grand talent, bien entendu, mais il s'est permis de dire des tas de petites vacheries, si je puis m'exprimer ainsi, sur un tas d'espèces animales, d'une manière absolument gratuite, n'est-ce pas. C'est à la limite de... soit de la poésie, soit de l'invention. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas dans Buffon un tas de trucs intelligents, y compris des réflexions biologiques très fortes d'ailleurs. Mais je pense qu'il ne faut pas accorder une trop grande importance au jugement que Buffon apporte sur les animaux, d'autant plus que sa connaissance éthologique sur le comportement était à peu près nulle. Il n'y était pour rien. Les connaissances de son temps étaient ce qu'elles étaient, c'est très très faible.
Si ce n'est qu'il y avait quand même des hommes qu'on découvre dans votre livre. Yves Christen, vous citez Diderot qui parle à D'Alembert et qui dit ceci. Et donc des hommes qui étaient un peu plus éclairés par rapport à l'animal. Donc il dit « Cet animal qui se meut, s'agite, crie et a toutes vos affections, toutes vos actions, prétendez-vous avec Descartes que c'est une pure machine imitative ? Mais les petits-enfants se moqueront de vous et les philosophes vous répliqueront que si c'est là une machine, vous en êtes une autre.
Ben, je crois que Diderot était un très grand homme. Enfin, on n'est pas là pour parler de Diderot parce qu'on pourrait y consacrer dans plusieurs émissions. Je pense qu'il y a chez Diderot une vision des choses qui fait de lui l'un des grands penseurs de son temps et même de tous les temps, et que la réplique de Diderot vis-à-vis de Descartes est juste parfaite, en quelque sorte. On peut pas, enfin, c'est même quasiment une évidence, comme le disait Pierre tout à l'heure. Il est clair que ce qu'a écrit Descartes au sujet de l'animal, y compris le fait, tout de même, Descartes a écrit la preuve que l'animal est idiot, c'est qu'il ne comprend pas notre langage, n'est-ce pas? Alors que Montaigne, avant Descartes, avait déjà fait remarquer que le problème était en sens inverse, n'est-ce pas? Nous ne comprenons pas davantage le langage des animaux. Et il est tout à fait remarquable que, même aujourd'hui, dans les études faites par des scientifiques, dans tous les cas, lorsqu'il y a des éléments de communication, ce sont des animaux qui sont contraint d'apprendre un langage humain, par exemple le langage des surmuets, ou de comprendre la langue anglaise, ou de comprendre des langages symboliques humains. Ça n'est jamais un essai dans lequel un humain, un scientifique humain, essaierait d'apprendre un langage, je ne dis pas au sens émotionnel, mais quasiment au sens linguistique, par exemple le langage des gestes, pour communiquer avec un animal. Donc vous voyez cet argument de Montaigne, le débat Montaigne-Descartes, et puis revu ensuite par Diderot, est un débat qui a une grande actualité.
Ce langage, Yves Christen, mais Pierre Jouventin, ce langage, vous l'avez donc expérimenté avec Kamala. Qu'est-ce que vous avez perçu? Comment est-ce que finalement vous êtes entré en dialogue? Est-ce qu'on peut dire ça avec elle?
Bien sûr, d'une part, c'est quand même mon métier, donc j'avais quand même des facilités. Et d'autre part...
Mais en l'observant du matin au soir, vous avez pu aussi repérer
autre chose.
En l'observant
du matin au soir, j'ai évidemment pas mal de choses. En particulier, un comportement qui est complètement inconnu encore maintenant par les spécialistes du loup, c'est que les loups sont altruistes. C'est-à-dire que, comme on était la meute... et qu'elle nous considérait comme des congénères, c'est-à-dire les autres membres de la meute, eh bien, elle venait nous tirer du bord de la fenêtre, du bord du balcon, et on chez sur mon site internet Kamala trait d'union Louvre, vous pouvez voir directement ma femme en train d'être récupérée par Kamala au milieu de la rivière, de l'Hérault, pour être ramenée à la rive 5 fois de suite. Donc en réalité, ça c'est complètement inconnu et ça mérite d'être connu. Ceci dit, maintenant qu'on l'a vu et qu'on l'a prouvé, ça me paraît tellement évident que je me demande pourquoi on ne l'a pas vu avant. Parce qu'un animal au fait de la socialité comme le loup ne pouvait pas ne pas être altruiste.
Yves Christen, sur l'altruisme, c'est vrai que c'est une autre
question. Je crois
que
ce que dit Pierre Jouventin est très juste. Maintenant, il y a tout un mouvement qui fait qu'on reconnaît l'existence d'altruisme animal. Alors, on reconnaît à travers des études en liberté, des observations comportementales comme celle de Pierre Jouventin, et aussi par des expériences, par exemple chez le rat, chez la souris, etc., où on peut manipuler les animaux, les mettre en condition telle qu'un animal voit son congénère dans une situation inconfortable et va donc faire des efforts pour arriver à le libérer, pour lui venir en aide, etc. Et cet animal qui ne fait que regarder son congénère souffrant éprouve lui-même une souffrance qu'on peut évaluer par des dosages d'hormones, des dosages de médiateurs divers. Donc je crois qu'il est aujourd'hui très clair qu'il existe un altruisme animal, c'est devenu manifeste. Et comme beaucoup de choses dans le monde biologique, ça paraissait inconnu. C'est comme l'infanticide avant qu'on ne découche les lions. Coral Lorenz, qui était quand même, c'était le géant hein, dans le domaine du comportement, a écrit qu'en dehors de l'espèce humaine, les animaux ne se tuent pas à l'intérieur de leur espèce. Maintenant, on sait que bien entendu, que c'est relativement commun. Donc, il y a des tas de choses qui ne paraissaient absolument inconnues, et d'un coup, on se rend compte que ça existe et que c'est relativement commun.
Pierre Jouventin.
Pardon. Je crois qu'on est en train de vivre une sorte de révolution dans l'esprit de la vision de l'animal et les relations entre l'animal et l'homme l'homme et la nature. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a été dans une civilisation, une culture occidentale qui nous écartait complètement, qui faisait une frontière entre la nature et l'homme. On voit où ça a mené. Maintenant, on est coincé parce qu'on est au bout des ressources. Et puis, pour l'animal, pour en rester à notre sujet, eh bien, on s'aperçoit qu'en réalité, à force, c'est Claude Lévi-Strauss qui disait ça, à force d'avoir mis une barrière entre l'homme et l'animal, eh bien, il suffit de déplacer un peu la barrière et après, on met de l'autre côté tout ce qu'on ne veut pas, c'est-à-dire les juifs, les noirs, les homosexuels, etc. Et donc, c'est ce qu'ont fait les nazis. Donc, en réalité, Claude Lévi-Strauss disait quelque chose qui me paraît extraordinaire, c'est qu'il ne faut pas mettre de barrière entre l'homme et l'animal, il faut être antispéciste, on dit maintenant, et il y a actuellement aux États-Unis un grand succès avec le mouvement de libération animale, par exemple, qui commence à passer en France.
Alors c'est vrai que si dans l'histoire le loup n'a pas toujours été bien accueilli, je disais au début de l'émission, que le loup-garou, l'image, les légendes ont souvent fait du mal à cet animal. Aucun animal n'a été aussi présent, on peut le dire, hein, dans l'imaginaire des hommes, Pierre Jouventin. Oui. On peut repartir loin hein, dans l'Antiquité, Romulus, Rémus, bon là c'était plutôt positif, hein, les deux enfants élevés par une louve.
Alors,
disait-on.
Je suis heureux que vous ayez mis le sujet sur le rapport homme-loup, qui, dans mon livre, ne n'occupe que trois chapitres sur 23, parce que ça me paraît la clé de voûte du livre, et en fin de compte, la partie la plus originale. À mon avis, si on a ostracisé à ce point le loup, c'est qu'il est tellement proche de nous qu'il fallait... c'était soit un frère, soit un ennemi. Et donc, ça, on a préféré en faire un ennemi. Donc, on a choisi que le chien, qui en réalité, on le sait maintenant par la génétique, l'héritier du loup, le descendant, eh bien, on l'a mis du côté de l'homme, et par contre, le loup, on l'a mis du côté du diable. Donc, en réalité, on a repris le partage au départ, Dieu contre le diable, c'est-à-dire l'homme qui est du côté de Dieu, qui est à l'image de Dieu, le chien qui est à l'image de Dieu aussi, et puis le loup qui est exactement antithèse, ce qu'il ne faut pas devenir, retourner à l'animal.
Et oui, ce que vous dites, Pierre Jouventin, dans votre livre, c'est que finalement, c'était peut-être aussi une façon de faire oublier notre long passé de tueur en meute, c'est-à-dire on serait tellement proche du loup que du coup, on s'en est détaché quelque part. Yves-Christine ?
Ce que dit Pierre Jouventin est très vrai, mais de manière plus générale, je crois qu'il y a une très grande ambivalence dans les relations des hommes avec les autres animaux. Je pense que le mot animal, pour moi, n'a finalement pas grand-chose, plus grand sens, puisque nous sommes nous-mêmes des animaux. Et cette ambivalence fait que, on le voit avec le loup, il y a d'un côté de la peur, de la crainte, peut-être de la jalousie. De l'autre côté, il y a une certaine fascination. Ça vaut pour tous les grands fauves. Les grands fauves également ont pu être vécus comme des ennemis. En même temps, le léopard est une bête magnifique. Le lion, ça incarne la force, etc. Et je suis fasciné par le fait qu'il y a justement, qu'il y a toujours eu cette ambivalence. Ce qui s'opère aujourd'hui, comme l'a dit Pierre, c'est le fait qu'il y a une espèce de glissement et qu'on est en train de réviser cette grille de lecture et qu'on se rend compte qu'il y a de moins en moins de raisons de considérer l'animal comme un ennemi. Il faut dire que globalement, on a dominé tous les animaux et on en a exterminé pas mal. Donc, je dirais, pauvre bête. Hein. Il y a de moins en moins de raisons d'avoir cet ostracisme. Donc, la partie inverse de cette ambivalence, qui est l'élément de fascination, lui, vous voyez, c'est comme une balance, n'est-ce pas, remonte et prend de plus en plus d'importance.
Et avec peut-être aussi l'apport des connaissances plus poussées des scientifiques aujourd'hui, on peut
et
dire.
Bien sûr, et je crois que justement, c'est là où le travail de Pierre Jointin est très important, c'est qu'il y a quand même une autre grande différence entre le regard d'aujourd'hui et celui d'hier, c'est que par-delà ce changement de vécu, d'affection, il y a un savoir, c'est-à-dire qu'il y a de la recherche, il y a des résultats, il y a des choses qui dépassent le compte-rendu de propos de Bistrot du Commerce. Hein.
Pierre Jouventin.
Oui, alors je pense qu'actuellement, on est en plein bouleversement parce qu'on est en train de se rendre compte, d'une part, en un siècle, on a acquis quasiment toutes les connaissances d'éthologie. D'autre part, parallèlement, on est en train d'acquérir toutes les connaissances sur l'homme. Ce qu'on a appelé avant la paléontologie, que maintenant on appelle la paléanthropologie, avec par exemple Pascal Pic, qui tous les ans sort un livre là-dessus. Et on s'aperçoit qu'en réalité, l'origine de l'homme, c'est exactement la même que celle du loup, c'est-à-dire des chasseurs en meute. En réalité, nous sommes dans une situation qui n'est pas du tout visible maintenant, parce qu'on est d'animaux autodomestiqués. Mais jusqu'à récemment, il y a 10 000 ans, on était encore des chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire des chasseurs en meute. Et donc, en réalité, on avait exactement le même mode de vie que les loups et donc le même comportement social. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'on est si proche psychologiquement. Alors que, par contre, ce qui est connu actuellement et ce qui est dit partout, c'est qu'on est proche génétiquement du chimpanzé, ce qui est vrai, mais qui n'enlève pas moins que la convergence écologique entre l'homme et le loup est énorme. Et en France, ça n'a jamais été dit.
Alors, il y a un homme qui, très tôt, avant vous, déjà Pierre Jouventin, s'était intéressé au loup et avait même constitué un parc. Là, il n'avait pas élevé un loup dans un appartement, mais c'est Gérard Ménatori. On va l'entendre, si vous voulez bien, dans une archive extraite de l'INA. C'est un document qui date du 6 avril 1996, extrait d'une émission chronique sauvage. Et il faut rappeler que Gérard Ménatori donc avait fondé le parc à loups du Gévaudan, repris aujourd'hui par sa fille, et qui se situe à Sainte-Lucie en Lozère.
Je m'allonge toujours pour leur donner confiance. Ils n'ont plus peur si je suis allongé. Et c'est ce que je cherche. Alors je peux me mettre au milieu d'eux, tout ça. Bon, je me couche, j'ai des loups sur les côtés, j'en ai derrière moi qui m'attrapent. Hein. Quand j'étais avec mon petit parc à moi, je rentrais toutes les nuits dans le parc, c'est tout. Je fais ce que je veux. Quoi. Je peux dire que vraiment, sans exagérer, 35 ans avec les loups, je sais comment il faut les prendre. Quoi. Personne ne m'a donné de conseils. Ils ne connaissent rien. Tous les parcs qui ont des loups dans les parcs, ils ne connaissent rien, strictement rien. Mais j'ai appris une chose. Vous êtes en face des loups qui sont un peu agressifs. Le chef de bande, hein, s'y charge. Ne jetez pas un morceau de bois ou tout ça, il sera plus fort que vous. En revanche, si vous prenez une pierre ou la lancez sur lui, il foutra le camp très vite.
Pierre Jouventin, alors est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision? Quand on lit votre livre, on se rend compte que vous ne vous allongiez pas face à Kamala. Au contraire, vous faisiez en sorte de la dominer en vous mettant au-dessus, plus haut qu'elle en tout cas.
J'avais pas la même fonction, c'est-à-dire que moi j'étais par force obligé d'être chef de meute, donc j'étais obligé d'assurer mon rôle. Alors justement, je parle pas mal des chiens dans mon livre, parce que on ne peut pas élever des chiens si on n'a pas compris qu'il est le descendant d'un loup et que donc il faut avoir toujours en mémoire comment se conduisent les loups. Si on essaie par exemple d'être trop gentil avec son chien et de lui laisser trop de droits, eh bien, c'est lui qui prend la dominance et vous êtes embêté.
Mais alors, la première domestication, parce que bon, vous avez vécu cette expérience assez rare, elle remonterait à 12 000 avant notre ère. C'est-à-dire que, visiblement, on a connu un temps où l'homme et le loup se côtoyaient au quotidien.
Alors là, on est en plein bouleversement actuellement. C'est-à-dire, ça aussi, c'est une révolution. C'est-à-dire que jusqu'à l'histoire de la domestication du loup est en train de se retrouver et de jouer avec l'histoire de l'évolution humaine. C'est-à-dire que au départ, enfin, jusqu'à récemment, quelques années, on disait c'est 8 000 ans, 8 à 10 000 ans. Bon. Et ça collait assez bien, puisque la domestication, les autres animaux domestiques, c'est entre 4 et 8 000 ans, donc ça paraissait le plus ancien. Bon. Et puis, on s'aperçoit maintenant qu'il y a on a trouvé des tombes avec des hommes préhistoriques qui ont la main sur un loup déjà modifié, qui a le museau raccourci, donc qui est déjà domestiqué. Et donc, manifestement, il y a déjà domestication. Et puis après, on s'est aperçu, à la grotte Chauvet, par exemple, ça intéresse les préhistoriens qui ne s'en sont peut-être pas rendus compte encore, c'est qu'actuellement, jusqu'à présent...
On a les traces d'un enfant et des traces de loup
voilà,
dans cette grotte.
Voilà, il y a moins 23 000 ans, il y a des traces de loup sur 50 mètres et d'un enfant de 8-9 ans, et d'un loup qui a des empreintes un peu modifiées, donc déjà début de domestication. Et donc, à l'époque, personne n'osait dire... que c'était un chien, parce qu'évidemment, vu qu'on avait 8000 ans, ça pouvait pas être trois fois plus. Donc personne... Mais maintenant, on vient de trouver, ça date de quelques mois, moins de 32 000 ans, des loups qui sont déjà modifiés et qui se trouvent avec des hommes en deux endroits d'Europe. Donc on est déjà à 32 000 ans avec des preuves certaines, et ça date de quelques mois. Après, par d'autres méthodes, datation de l'ADN, des évaluations génétiques... On est à 100 000 ans et on a trouvé encore dans des tombes de chinoises à 300 000 ans, on a trouvé des loups. Donc, qui ne sont pas modifiés, mais qu'est-ce qu'ils font là ?
Je suis un loup qui jadis était très méchant. Mais qui par malheur un jour s'est cassé les dents sur une grand-mère solide comme un roc. Tout est à l'envers, c'est une triste époque. J'étais loup méchant, je suis maintenant gentil chien. Elle me promène et je lui mange dans la main. Si je ne file pas droit ou bien si j'ai tort, tout est à l'envers, c'est elle qui me mord.
Pauvre loup,
pauvre loup,
pauvre loup.
Jamais vraiment mangé le chaperon rouge. Ça c'est des histoires qu'on raconte au fond des bouches. Ce petit enfant blond était loin d'être bête. Il n'a jamais tiré cette sacrée chevillette.
Vous êtes sur France Culture, c'était Bachung qui chantait la chanson du loup. C'est la suite de La Marche des Sciences que nous consacrons aujourd'hui au couple homme-loup et à l'histoire hors du commun de l'éthologue et écologue Pierre Jouventin qui a élevé une louve dès 1975 dans un appartement à Montpellier. Il a décidé aujourd'hui de raconter cette aventure dans un livre intitulé Kamala, une louve dans ma famille, un livre édité chez Flammarion. Et nous profitons donc de ce regard du scientifique et de l'homme qui a beaucoup appris de cette relation exceptionnelle, puisqu'il est avec nous et à ses côtés également le biologiste Yves Christen, auteur notamment du livre Les surdoués du monde animal, un livre édité aux éditions du Rocher, et puis plus récemment L'animal est-il une personne, ouvrage édité chez Flammarion, et Yves Christen qui est vraiment spécialiste de ces relations homme-animal. Yves Christen, dans l'aventure vécue par Pierre Jouventin, qu'est-ce qui vous a le plus étonné ? Parce qu'il y a aussi tout un registre qu'on a pas encore abordé jusque-là dans l'émission, c'est le registre de l'inné et de l'acquis.
Oui, alors vaste débat, bien entendu, mais par rapport à cette problématique, il y a quelque chose de très intéressant dans le livre de Pierre Jouventin, c'est ce qui relève de la plasticité des comportements. Traditionnellement, dans la vision de l'animal, les gens voyaient la bête comme étant un objet stéréotypé qui, face à une situation déterminée, n'avait qu'un mode de comportement et pas un autre. Je crois qu'il y a aujourd'hui un nombre incalculable de données qui montrent que ça n'est pas le cas, même chez les animaux comme les insectes, où les choses sont bien différentes de ce qu'avait écrit avec beaucoup de talent d'ailleurs Jean-Henri Fabre. Et là, on voit effectivement un exemple extraordinaire à travers un phénomène qu'on peut qualifier d'acculturation, si l'on veut, dans lequel le loup, qui est un objet qui, normalement, n'est pas fait pour vivre dans l'appartement de Pierre Jouventin, on l'imagine bien, est capable parfaitement de s'y adapter, enfin, moyennant quelques problèmes domestiques, mais enfin, c'est pas grand-chose. Hein. Donc, on voit bien que cet être est capable d'avoir une grande plasticité, de s'adapter à une situation qui est extrêmement différente de sa situation naturelle, entre guillemets, et qu'il est même capable, dans ce contexte-là, d'avoir une interaction, d'avoir un certain échange de signaux, de comportements, de sentiments. c'est pas une expérience banale. Hein.
Et en sachant qu'il faut rentrer dans le cerveau de l'animal, Pierre Jouventin, en entrant dans le cerveau de Kamala, finalement, qu'elle vous a appris ? Qu'est-ce qu'elle a appris de cette nouvelle meute pour elle, qui était votre famille ?
Ben, de toute manière, c'est mon travail d'entrer dans les cerveaux des animaux.
Oui, mais quand cet animal, en plus, on l'élève dans sa famille, avec son fils, votre fils était jeune, il avait quel âge quand il est arrivé ? 10 ans. C'est vrai qu'on mêle le regard du scientifique avec le regard de l'homme. J'imagine que garder presque une objectivité, ça ne doit pas être toujours facile dans ce travail-là.
Ben, en réalité, c'est
la distance, comme on dit.
Oui, voilà. En réalité, c'est le même problème que les œnologues. Il faut absolument à la fois être dedans et dehors continuellement. Et donc, il faut à la fois ne pas être anthropomorphique, comme on dit, c'est-à-dire ne prendre l'animal pour un homme. Mais de l'autre côté, quand l'animal vous prend, lui, pour un loup, il faut bien entrer dans son jeu. Donc, vous êtes obligé d'entrer dans ce jeu. Et à fin de compte, c'est intéressant parce que ça permet... À certaines époques, on a essayé, par exemple, de faire l'expérience sur des chiens. Bon, on leur mettait des tas de décharges d'électricité. Bon, et on s'apercevait qu'ils s'aplatissaient au sol et qu'au lieu de trouver la sortie, ils restaient. Bon, on s'est dit, ils sont complètement idiots, ils ne comprennent rien. En réalité, le chien était dominé. Et il estimait que le maître, le technicien, n'était pas gentil, et sans plus. Et donc, il se mettait à plat ventre comme un loup quand il est attaqué par un autre dominant. Plutôt que mourir, il se met à plat ventre. Mais on avait complètement gommé le fait que l'animal n'est pas un objet. C'est un être social. Il participe avec vous. Donc...
Mais qu'est-ce qui restait inné, quand même, chez Kamala ?
Bah, tout, en réalité. En réalité, bon... Le problème de l'inné, c'est moi je croyais que ça allait être réglé en 1970. Parce qu'en 1970,
il y a eu beaucoup
un
de
grand débat
de
en éthologie sur l'inné et l'acquis. Bon, Lorentz, etc., se sont disputés avec d'autres. Bon, on s'est rendu compte, le bilan, c'était qu'il n'y a aucun animal qui soit complètement dans l'inné. Les insectes ne sont pas uniquement instinctifs et l'homme n'est pas uniquement culturel. C'est pas aussi simple. En réalité, tout est mélangé. Mais le pourcentage est variable et c'est quasiment inexplicable. Et deuxièmement, l'environnement joue toujours. Donc je croyais que le problème était réglé. Or, ça revient continuellement. Donc il y a un problème de fond. Actuellement, on n'arrive pas à sortir de ce problème.
Mais avec l'expérience vécue avec Kamala ? Parce que Yves Christen disait, bon, finalement, elle s'est habituée à ce nouvel environnement qui était l'appartement. Enfin, vous avez dû quand même l'aider aussi à s'adapter. Elle avait besoin de s'exprimer. Elle courait tous les jours. Vous la faisiez courir dans l'appartement. C'était un F4 qui faisait 100 mètres carrés.
Oui, oui.
Alors dites-nous, oui. Merci aux voisins qui ont été très compréhensifs.
Oui, oui. Peut-être qu'ils m'écoutent d'ailleurs. En tout cas, un loup, ça a beaucoup d'inné. Un homme, ça a beaucoup de culturel. Bon, là, le pourcentage est inverse. Mais il n'en reste pas moins qu'un loup, ça apprend des choses. Je raconte dans mon bouquin un moment que pour essayer de la calmer, parce qu'un loup, ça a des pattes terribles avec des griffes, et quand ça commence à vous demander quelque chose, ça vous fait des marques horribles. Donc on l'obligeait à s'asseoir et à donner la patte. Bon, c'était ce qui prouve qu'un loup, ça peut se domestiquer comme un chien. Et puis ensuite, le problème, c'est qu'un jour, on l'a fait toutes les semaines, à peu près, on la sortait, et en particulier, voir un demi-loup qui était un ami. Et comme elle voulait s'amuser avec lui, eh bien, au lieu de d'abord essayer de faire les postures de rituel de jeu, c'est-à-dire en se mettant la tête au niveau du sol et en avançant les pattes, et puis lui, il n'avait pas envie de s'amuser, donc il faisait semblant de ne pas comprendre le langage instinctif. Et puis, en fin de compte, elle s'est mise devant lui, elle a tendu la patte. Donc vous en arrivez au langage des gestes qu'on a mis en place chez les chimpanzés. Ça, c'est exactement la même histoire.
Et là, vous êtes dit quoi, vous, en tant que scientifique ?
Moi, j'avoue que j'étais tellement surpris que je suis resté baba, quoi.
Yves Christen, vous parlez dans votre livre, donc l'animal est-il une personne, de la charte, c'est même plus qu'une charte, c'est la Déclaration universelle des droits de l'animal qui existe donc depuis combien de temps ?
Oui, il y en a eu plusieurs d'ailleurs, donc depuis quelques années. Je crois qu'on évolue vers, comment dirais-je, effectivement une reconnaissance. Moi, je suis un peu sceptique sur ça, vous voyez, j'ai une très grande sympathie vis-à-vis de l'animal. Je ne suis pas sûr que ceci doit passer par des législations, etc., et par quelque chose qui soit un peu le symétrique des droits de l'homme, c'est-à-dire une espèce de stéréotype qui a valeur de slogan, et moyennant quoi, rien ne rentre dans le vécu réel. Hein. Donc je ne suis pas obsédé par cela. Je pense quand même que globalement, c'est surtout vrai pour les grands singes, du fait de leur immense proximité avec nous, il est clair que la condition de ces animaux est en train de changer. Il est clair que... Écoutez, quand j'étais enfant, on pouvait aller dans un zoo. Pierre avait eu certainement la même expérience que moi. On pouvait voir des gens voyaient un singe dans une cage, ils se moquaient de lui, ils envoyaient une cigarette, une pierre, etc. Je crois qu'aujourd'hui, on n'oserait plus faire ça. On n'oserait plus. Enfin, on aurait quand même le sentiment que c'est mal, que c'est incontestablement mal. Donc, il y a une évolution qui va dans ce sens-là. C'est une révolution extraordinaire, hein, parce que je songe cette phrase d'Alain, le philosophe Alain, qui dit en gros que finalement, on ne peut pas y arriver parce que ce serait insupportable. Supposer que demain, nous disait Alain, on vienne à reconnaître que le veau aime sa mère, que le veau a peur de mourir et que le veau a des yeux pour vous regarder. Vous ne pourriez plus manger de veau. Or, entre nous, il est absolument certain, n'est-ce pas, que les veaux aiment leur mère, que les veaux ont peur de mourir, et que les veaux ont des yeux, et que les yeux peuvent vous regarder. Hein. Donc, il est clair qu'on est placé face à une situation
qui est absolument extraordinaire. Aussi.
Beaucoup plus grande, d'ailleurs, que la libération de l'esclave. Parce que quand, au fond, l'esclave, les humains savaient que les esclaves étaient des hommes. Et d'autre part... Le risque n'était pas très grand. Vous aviez des esclaves, vous les libérez pour en faire des consommateurs qui rentrent dans le grand système économique. Cet homme a sa même utilité d'une certaine manière par rapport au leader du système social économique. Pour l'animal, c'est complètement différent. Si nous allions au bout de ce cheminement, la vie humaine ne serait pas possible. Donc il est clair qu'on est face à une contradiction qui est immense.
Et donc je disais qu'il y a des lois effectivement qui protègent donc les animaux et les loups. La convention de Berne de 1979 sur la conservation de la vie sauvage. Puis la directive européenne de 1992 relative à la sauvegarde de la faune et de la flore sauvage. Et puis plus récemment, c'était le 27 juillet 2011, le ministère de l'écologie a autorisé des particuliers en France à tuer les loups. Il y a des dérogations parce que finalement ce rapport homme-loup n'est pas toujours facile. Notamment pour les bergers. Je vous propose d'écouter le dernier document sonore extrait des archives de l'INA. C'est le choix d'Inter, un reportage de Véronique Pueyo. C'était le 18 octobre 1998 et vous allez entendre Jean-Pierre Jouffré, berger à Arles. Il avait 100 brebis, il les avait emmenés dans un alpage. En tout cas, la montée en estive a été difficile, alpage de Belledonne, et il raconte.
J'ai des attaques à 3-4 fois par semaine, hein. Des bêtes mortes, des bêtes blessées. Une brebis qui a... J'ai descendu sur le dos jusque là, elle est venue mourir là au camion.
Oui, oui, non, mais là, ouais. On est à bout, hein.
On ne peut pas continuer comme ça, c'est impossible. Hein. S'ils veulent nous éliminer les bergers, qu'ils nous le disent, hein, terminé. Mon père venait ici depuis 1928. En 83, quand mon père est décédé, c'est moi qui ai repris la succession. On n'a jamais vu ça. Moi, je vous dis, c'est notre gagne-pain, on vit avec, on y travaille dedans. Je veux dire, c'est notre vie, c'est notre vie, on est né là-dedans. Parce qu'en plus de ça, berger, on est berger, on ne le devient pas berger. Alors qu'une fois qu'on est né là-dedans, on ne peut pas faire autre chose, hein, je veux dire, on est obligé. Puis on y tient aux bêtes. Laisser manger nos moutons à des prédateurs, en plus de les manger, s'ils en tuaient une qui la mange, ce serait rien. Mais c'est ceux qui blessent, hein, qui traînent dans la montagne, il y a des brebis qui a 15 jours qu'elles sont en train de mourir, par des souffrances atroces. Et bon, on leur fait les premiers soins, alors on ne veut pas les tuer de suite parce qu'on a toujours espoir qu'elles vont revenir. Mais après, on les trouve mortes. Ça fait 3 mois que je crie au secours. Personne n'est venu me voir.
Dans certaines situations, on l'entend, il semble bien difficile de réhabiliter le loup, le rapport, la relation avec l'homme, hein, Yves Christen.
Oui, il est clair qu'on ne peut pas contester qu'il y a des contradictions, qu'il y a des complexités et que... quelle que soit la sympathie que l'on puisse avoir pour les animaux, ce qui est mon cas, ce qui est le cas de Pierre Jouventin, on ne peut pas ne pas voir qu'il y a des problèmes et des contradictions. Et on a du mal à mettre la barrière. Moi, je pense qu'un animal comme le loup, qui est un symbole, un animal de mythologie, ce ne serait pas digne de ne pas lui faire sa place dans un pays comme le nôtre. Ça fait partie de l'histoire. C'est une richesse, vous voyez, c'est comme la Joconde du Louvre. C'est quelque chose qui est qu'on ne peut pas ne pas souhaiter avoir chez soi, enfin dans son pays, et ça vaut pareil pour l'ours. Bien entendu, ça pose des problèmes et il faut essayer de les surmonter, mais vous savez, ça pose pas plus de problèmes que beaucoup d'autres choses. Hein. La circulation automobile, il y a aussi plein de contradictions, plein d'incidents, plein de problèmes. Hein. Ça ne doit pas être vécu comme une impossibilité de faire quelque chose.
Pierre Jouventin.
Bien sûr, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut... C'est pas facile, hein. Moi je veux pas non plus jeter la pierre aux bergers, parce qu'évidemment, ils ont déjà assez de mal à s'en tirer. Hein. Mais il n'en reste pas moins qu'il va falloir changer les manières d'agir. Pourquoi comme le disait d'ailleurs Yves Christen, pourquoi en Espagne et en Italie ça se passe bien, et jamais en France ? Il y a un problème.
Comment vous l'analysez, vous ?
C'est qu'ils ont perdu la tradition en France. Ils ne savent plus. Quand on va à l'estive une fois par semaine, il est bien évident qu'on ne garde pas ses moutons. Et donc, actuellement, ça va poser des problèmes. C'est-à-dire les bergers qui ne font ça qu'à mi-temps, ils ne pourront plus. Et donc, ils vont être obligés d'abandonner le métier, c'est sûr. Ou alors, de toute manière, ils n'arriveront pas à éliminer les loups. Il y en a partout. De toutes les frontières, ça arrive. Donc, il ne faut pas s'imaginer qu'on va régler le problème comme ça.
Vous avez eu des réactions déjà à votre livre, Pierre Jouventin, parce qu'élever un animal dans un appartement et ce que vous racontez, ça suscite quoi finalement ?
Au début, c'est amusant parce qu'au début, moi, je l'ai montré, ce livre, je l'ai envoyé d'ailleurs aux associations de protection du loup. Bon. Qui était scandalisé en se disant comment un loup en appartement, c'est une honte, etc. Et puis ils l'ont lu, bon, ils ont compris évidemment très vite, et maintenant ils me soutiennent à fond.
Qu'est-ce qu'elle est devenue, Kamala ?
Alors là, évidemment, c'est pour ça que je ne conseille pas, à mon avis, c'est de la même manière que ce n'est pas facile de faire cohabiter les bergers avec les loups, je ne conseille absolument pas aux gens d'élever les animaux sauvages chez eux, parce que d'une part, c'est illégal, et d'autre part, ce n'est pas souhaitable.
Parce que finalement, vous l'aviez mise dans la fameuse maison et l'enclos et le grand jardin qui était enfin terminé, fini au bout de 5 ans, et en voulant s'échapper de l'enclos, finalement, elle s'est prise... Dans un coulé, presque.
Enfin, comment voulez-vous balader un loup ? À un moment, on l'a perdu dans la ville. Je peux pas prendre
une responsabilité. Vous le racontez aussi dans le livre.
Oui. C'est pas possible. On vit dans un monde où on est coincé.
Yves Christen, vous êtes du même avis que Pierre Jouventin quand il dit que finalement, le loup peut nous sauver de nous-mêmes.
Je crois que c'est une idée forte. C'est-à-dire que l'une des choses fascinantes dans le rapport à l'animal... c'est de le découvrir lui, bien entendu, avec sa richesse. Et il y a un phénomène de miroir, n'est-ce pas ? Quand on s'intéresse à autre chose que soi, on découvre aussi des choses sur soi. Vous savez, les gens extrêmement égocentriques, extrêmement narcissiques, qui ne s'intéressent qu'à eux-mêmes, ont, je pense, une très grande pauvreté, y compris de la connaissance d'eux-mêmes, bien qu'ils y consacrent la totalité de leur énergie et de leur temps. Hein. Si on veut se comprendre soi-même, il faut avoir le regard un peu plus large et voir des choses compliquées, des choses sur lesquelles on aurait pu avoir des réactions différentes dans le passé. Donc je pense que cette image qui nous est renvoyée, effectivement, c'est une richesse pour nous.
Et ce qu'on apprend grâce à vous, Pierre Jouventin, c'est que finalement, Kamala, elle vous avait enseigné beaucoup de choses. Elle vous avait aussi enseigné à améliorer vos propres relations avec votre entourage, la politesse et la vie en société. C'est ce que vous expliquez dans le livre que l'on conseille bien sûr à nos auditeurs. Merci à tous les deux d'être venus nous voir, nous raconter aussi beaucoup sur ce couple loup-homme et homme-animal. Et Pierre Jouventin, je rappelle le titre de votre livre, Kamala, une louve dans ma famille, édité chez Flammarion. Yves Christen a conseillé absolument L'animal est-il une personne, également édité chez Flammarion. Et puis Les surdoués du monde animal, c'est paru aux éditions du Rocher. Et puis a signalé aussi, Pierre Jouventin, on le rappelle, le site kamala-louve.fr où on peut voir effectivement des vidéos. Mais tout sera à retrouver, les références sur notre site www.franceculture.fr à la page de la marche des sciences. Restez avec nous, ça va vous intéresser, vous allez voir, seconde partie de la marche. Seconde partie de la marche des sciences, non sans rapport avec le thème d'aujourd'hui, puisque c'est le rendez-vous mensuel consacré au livre jeunesse. Et nos deux chroniqueuses du jour, Catherine Donnet et Céline Duchesnay, ont sélectionné des ouvrages sur les animaux. Alors on commence avec vous, Catherine Donnet, votre choix.
Bonjour, eh bien moi, le choix d'aujourd'hui, ce sont Les baleines, un livre d'origine anglaise de Di Costello et Hélène Case, illustré par Robin Carter. Et c'est une adaptation française de Christine Mignot, parue chez Flammarion dans la collection Père Castor. Les baleines, ce sont les cachalots, les orques, les narvals, les belugas, des noms qui font rêver et parfois peur.
Oui.
La baleine, par contre, rappelons-le, n'est pas un poisson, mais un mammifère marin classé dans l'ordre des cétacés. Les femelles allaitent donc leurs petits. Et ces baleines sont classifiées en deux types, les baleines à dents et les baleines à fanons.
Alors, c'est-à-dire ?
Eh bien, les baleines à dents sont carnivores et dévorent ainsi facilement leur proie. Et les baleines à fanons, elles, se nourrissent de plancton et de petites crevettes. Et ces fanons servent à filtrer leurs aliments.
Donc, les sept baleines alors, présentées dans le livre appartiennent à ces deux types-là, c'est
ça ? Bien sûr. D'accord. Donc, les baleines à dents. Dans les baleines à dents, on retrouve le beluga ou baleine blanche, qui peut mesurer jusqu'à 5 mètres, c'est-à-dire la longueur d'une voiture, il faut le rappeler. C'est un gentil joueur qui vit dans les eaux arctiques et subarctiques. L'orque, surnommé par contre la baleine tueuse, réputée pour sa férocité, mais qui s'attaque rarement à l'homme. Le cachalot, qui a la plus grosse tête du règne animal, avec le plus gros cerveau et le plus lourd, il peut peser jusqu'à 9 kilos. Le narval, qui vit en petite communauté dans les eaux proches du Groenland, avec une particularité, sa corne en spirale, Aurélie, qui ressemble à une épée.
Alors pour les baleines à fanons ?
Eh bien, il y a la baleine à bosse, qui se déplace seulement en groupe et qui est réputée pour son chant extraordinaire. La baleine boréale, qui vit le plus longtemps, environ 100 ans. Enfin, la baleine bleue, qui est le plus gros animal de tous les temps, plus grosse qu'un dinosaure. Si, si, Aurélie, elle mesure de 24 à 30 mètres de long et pèse environ 179 tonnes. Vous imaginez l'équivalent de 25 éléphants.
Ouais, c'est presque un ballet poétique. Bon, comment présente-t-on alors toutes ces informations aux jeunes lecteurs dans le livre ?
Eh bien, sur des doubles pages, 6 doubles pages grand format, avec un dessin de l'animal en pleine page, entouré d'encadrés de couleurs, de petites vignettes informatives façon post-it. L'enfant pourra trouver les informations essentielles sur les 7 baleines présentées, des caractéristiques générales de l'animal, au point de détail sur la forme des yeux, la bouche, l'épaisseur de sa couche de graisse, ainsi que des informations plus surprenantes. Et on revient vers l'émission d'avant. Les orques, qui vivent en groupe de 6 à 40 animaux, chassent en meute comme les loups.
Ah, vous le saviez peut-être, hein, Pierre Jouventin.
Et qui sont appelés les loups des mers.
En plus.
Donc, particularité de ce livre, Aurélie, donc un livre documentaire accompagné d'une maquette à construire en 3D. Un plus dans la compréhension de l'animal, en l'occurrence ici, celle d'une baleine bleue qui mesure, une fois montée, plus de 80 cm de long.
Donc on rappelle le titre du livre, Catherine.
Baleine, dans une adaptation de Christine Mignot, parue chez Flammarion, collection Père Castor, un album de 20 pages, 6 pages de montage à partir de 7 ans pour 13,20 €.
Alors on peut signaler également que dans cette même collection, ceux qui sont intéressés par les dinosaures trouveront un titre dinosaure avec la même présentation.
La même présentation, là ça sera le T-Rex, roi des dinosaures, qui pouvait mesurer jusqu'à 12 mètres de long et qui vivait il y a 160 millions d'années. Sur la maquette, il ne fera, ne vous inquiétez pas, que 80 cm.
Et alors rapidement, on le renverra sur notre site, bien sûr.
Oui, pour les enfants qui vont être bientôt en vacances, un livre d'expérience, 60 expériences faciles et amusantes. Un ouvrage ludique de Delphine Greenberg, une des conceptrices de la Cité des enfants à la Cité des sciences de la Villette. Voilà, un ouvrage donc où on retrouve des pages défis comme déplacer 99 kilos avec 3 doigts, des pages dégustation avec manger des pâtes bleues, des pages expérience avec l'eau, fabrique des icebergs.
Que des choses formidables pour les enfants et les parents, on imagine.
Oui, oui, magnifique. Donc 60 expériences faciles et amusantes, Delphine Greenberg, dès 5 ans, un livre paru dans la collection Croc Science, édité en partenariat avec la Cité des sciences et les éditions Nathan, 128 pages, 10 €.
Quand le soleil se couche, leur canon se danse, 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 danse sur un rythme d'enfer. L'œil mi-clos de désir, tu nages dans le bonheur. Et autour de moi, malin séducteur. T'es sûrement très doué, doué d'un chic très élégant.
Et en piste alors pour d'autres conseils lecture, Céline Duchesnay, bonjour.
Oui, bonjour. Alors nous restons avec moi dans le domaine marin, on quitte les baleines pour trouver un autre mal-aimé. On a parlé des loups, mais on a oublié aussi le requin, et notamment le grand requin blanc. Donc on commence par la carte d'identité du requin blanc. Il peut faire jusqu'à 6,80 m, il vit entre 40 et 50 ans. C'est un solitaire qui se déplace parfois en petits groupes, dont la vitesse de croisière est d'environ 40 km. On le trouve dans toutes les mers et les océans, et donc même en mer Méditerranée. Et notons que sa gueule est garnie de 300 dents. Quant à son régime alimentaire, autant dire qu'il est au sommet de la chaîne. Il mange essentiellement des phoques, des otaries et des lions de mer. L'alimentation du requin blanc, lorsque je prononce ces mots, vous devriez sentir dans ma voix une légère anxiété.
On le sent.
Car qui dit requin blanc, dit le film Les Dents de la Mer, donc mangeur d'hommes et monstre marin. Vous devriez, dis-je, parce qu'une fois que vous avez lu le livre que je vous propose aujourd'hui, Le Grand Requin Blanc du mythe à la réalité, vous changerez définitivement d'avis et vous songerez sérieusement à boycotter Les Dents de la Mer qui présentent l'animal comme une machine à tuer.
Donc là, c'est un ouvrage qui dit halte aux idées reçues sur les requins blancs.
Oui, le requin blanc n'est pas une grande brute stupide, mais un poisson au cerveau évolué, et certains biologistes de l'université de Santa Barbara en Californie pensent même qu'il est capable d'apprentissage. Donc non, l'homme n'est pas son repas favori. Des tests menés en laboratoire ont montré que le requin blanc est beaucoup plus réactif à un échantillon de calamar ou de crevette qu'à par exemple un échantillon de sang humain, et c'est dire. Donc on laisse de côté le mythe et on regarde maintenant le requin blanc dans sa réalité, une réalité bien préoccupante puisque c'est une espèce en train de s'éteindre, et ceci dans l'indifférence quasi générale. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, la forte demande sur le requin blanc ou les autres types de requins. Ils sont recherchés pour leur chair, pour les dents et surtout pour leur aileron. Combiné à 30 ans d'industrialisation de la pêche, on fait que la population des requins a chuté de 50%.
Et si, impressionnant quand même.
Si le requin disparaît, les conséquences se feront tout de suite sentir sur les écosystèmes marins si fragiles. Par exemple, au large de la Namibie, la disparition des requins a provoqué la prolifération des méduses qui, elles, mangent les œufs de poissons, d'où la chute des stocks dans des eaux pourtant réputées très poissonneuses. En mer, le plus grand prédateur n'est pas le requin blanc, mais l'homme.
Et donc, pour tout savoir sur le requin blanc, c'est ce livre, on rappelle le titre.
Voilà, donc un livre qui s'appelle Le requin blanc du mythe à la réalité, avec des photos qui sont très impressionnantes de Patrice Hérault, qui a suivi les requins pendant 20 ans, et un texte d'Alexandrine Sivard-Racinet, tout ça c'est aux éditions Glénat, 30 €. Et c'est un ouvrage à mettre entre les mains des collégiens et des lycéens, mais aussi des adultes.
Et puis alors peut-être quelques références livres pour les plus petits, Céline.
Alors pour les plus petits, je conseille deux livres qui sont intitulés Au cœur de la nature, qui racontent pas à pas et tout en images la vie d'un bébé animal jusqu'à l'âge adulte. Donc il y a Au cœur de la nature avec le petit gorille et Au cœur de la nature avec le petit guépard. Et donc tout ça, c'est avec les photos de Suzy Esteras, et c'est à découvrir aux éditions Gallimard Jeunesse à partir de 3 ans pour 13 € le volume.
Et toutes les références bien sûr et les liens sur le site www.franceculture.fr à la page de la Marche des Sciences. L'émission, je vous le rappelle, vous pouvez la télécharger pendant une semaine, l'écouter pendant 1000 jours et nous faire part également de vos commentaires. Et c'est la fin de la Marche des Sciences pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute la troupe. Catherine Donnet, Céline Duchesnay, Catherine Decopé, Catherine Louis et Florence Dartois-Delina. Beaucoup de Catherine. L'émission a été réalisée par Pascal Raillet. Merci à la technique Anthony Thomasson. Et puis n'oubliez pas demain, 14 h, votre rendez-vous avec Michel Alberganti pour son émission Science Publique. Et dans quelques minutes, bien sûr, à 15 h, c'est la suite de vos programmes avec Antoine Garapon et Le Bien Commun. Très bonne journée au fil de nos ondes, bien sûr.